Alain Didier Wandjie est un marketiste de profession qui s'est fait connaître il y a quelques années comme un blogueur et un auteur de talent. Ses articles et ses chroniques sont consultables sur son site web et aussi sur Medium, la plateforme de blogging. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce podcast est son excellente lettre d'information qui porte un nom original, la baguette Tech. Cette newsletter qui parle de marketing digital, d'entrepreneuriat, de création de contenu et de manière générale de technologie est distribuée à une fréquence hebdomadaire depuis 2019. C'est cette magnifique infolettre pleine de mordants et d'anecdotes, mais qui est aussi une mine d'informations que nous allons décortiquer pendant cette émission. Bienvenue dans ce 12e et dernier épisode de la saison 1 de N.com, votre podcast préféré. Ici, nous parlons depuis maintenant 2 ans du numérique, des médias et de l'innovation. Aujourd'hui, dans cet épisode qui conclut la saison, nous sommes avec Alain Didier Wandjie, que certains appellent Ad Wandjie et que d'autres encore surnomment AD. Avec lui, nous revenons sur la genèse de sa newsletter, sur les thématiques dont il y est question, sur ses ambitions en tant qu'auteur, sur ses modèles et aussi sur la pratique de cet exercice singulier dans le contexte camerounais et africain. Bonjour Alain Didier Wandjie, je suis très heureux de t'avoir comme invité de ce dernier épisode de la saison 1 du podcast N.com.
Merci beaucoup René, c'est un plaisir infini pour moi de participer à ce podcast dont je suis un grand auditeur et un grand fan, donc ça me fait plaisir, je suis vraiment flatté.
Alain Didier, je suis avec toi aujourd'hui pour parler de newsletter. Tu as créé il y a une année ou deux, si mes chiffres sont bons.
Trois ans, donc depuis 2019. J'ai créé la newsletter et aujourd'hui, 2019-2020, 2020-2021, donc 2021-2022, ce sera sa troisième saison.
La newsletter s'appelle bien La Baguette Tech.
C'est exactement ça, La Baguette Tech. La baguette.tech, c'est le site internet et La Baguette Tech, c'est le nom de la newsletter.
Alors dis-moi et dis-nous, parce que je pense que les auditeurs sont très intéressés par cet aspect de newsletter, parce que dans notre contexte au Cameroun, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer une newsletter?
Alors, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à lancer une newsletter, mais l'une des premières, c'était que l'avantage de la newsletter, c'est que je connais mon audience. Je sais qui me lit et je sais quelles sont les sources d'intérêt, quelles sont les choses qui motivent les personnes qui me lisent. Et ça me permettait d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ma création, beaucoup plus de feedback, parce que si j'écris un mauvais papier, ça va se voir immédiatement parce qu'une audience qui me lit d'habitude ne va pas me lire. Donc ça réduit l'impact de la qualité du marketing pour augmenter l'impact de la qualité du texte lui-même. Et ça me permettait de m'améliorer en tant qu'auteur, ce qui est réellement mon ambition dans la plupart des créations de contenu que je fais.
Je sais que tu es blogueur à la base, mais qu'est-ce qui te fait partir du blog pour la newsletter? Ou alors, quel est l'intérêt de la newsletter que tu ne trouves pas dans le blog?
L'intérêt de la newsletter que je ne trouve pas dans le blog, c'est réellement au niveau des stats et du feedback. En tant que blogueur, je peux le dire avec un certain niveau d'assurance, le blogging authentique, c'est au début 50% de marketing, 50% d'écriture même. Je vais même aller plus loin, je pense qu'on est dans le 30% d'écriture et 70% de marketing. Ce qui veut dire que être un bon blogueur va être en premier être un bon marketeur digital plutôt que être un bon auteur. Alors qu'avec la newsletter, c'est vraiment différent. La qualité de l'écriture est la qualité de ton marketing. Ça veut dire que tu pourras marketer ta newsletter aussi bien que tu veux. Tu n'auras jamais autant d'abonnés que si tu écris bien. Et c'est un élément qui est important pour moi. Et du coup, ça m'a motivé à rester dans la newsletter. Alors que on pourrait dire que ça, je perds en audience vu qu'une newsletter publiée ne touche que les personnes à qui je l'ai envoyée, contrairement à un article de blog qui peut être diffusé et toucher plusieurs personnes. Mais c'est vraiment plus intéressant pour moi parce que les personnes qui ont été touchées, elles le sont vraiment. et j'ai leur feedback, ils me répondent par mail pour me dire « Ah tiens, ça c'est bien » ou encore « Non, ça c'est vraiment nul ». J'ai beaucoup plus de réponses avec la newsletter que je n'en aurais eu, à mon avis, avec le blog.
Ta newsletter s'appelle « La baguette tech ». Donc, on part du principe que tu parles de technologie là-dessus.
Exact.
Et de quoi plus précisément ?
Je parle de marketing, de technologie, d'entrepreneuriat technologique. C'est beaucoup plus ça, c'est-à-dire start-up, VC, finance, des entreprises tech et marketing digital. Ça va tourner beaucoup autour de ça. Et de temps en temps, je vais parler de la société, mais surtout en rapport avec son impact dans le domaine des technologies.
Tu as parlé de VC. C'est quoi le VC?
VC, en anglais, je crois que ça veut dire venture capitalist. Et en français, c'est capital risqueur. Et un capital risqueur, c'est un type précis d'investisseur. Son métier, c'est de trouver des entreprises à fort potentiel de revenus. Ça veut dire que normalement, un investisseur ou quelqu'un qui fait du trading ou qui fait de la bourse cherche des entreprises qui peuvent lui rapporter quelque chose comme peut-être 2 fois sa mise sur 5 ans ou 3 fois sa mise sur 5 ans. Alors qu'un capital risqueur, c'est du genre à chercher quelque chose qui fait 10 fois sa mise sur 2 ans.
Quand tu lançais ta newsletter, vers quel type de public était-elle destinée?
Quand je lançais la newsletter à la base, le type de public était précis parce que j'avais déjà, pour être très exact, 4 personnes qui me lisaient. L'histoire de la newsletter, c'est vraiment ça. Je suis ami avec 2 ou 3 propriétaires de médias, entrepreneurs, VC et marketeurs. On discute et l'une d'entre eux me demande si je connais des newsletters francophones qui parlent des médias, de la tech et du marketing. Et je lui explique que non, pour cette conversation-là en particulier, tu vas avoir du mal à trouver une newsletter francophone. Tu trouveras beaucoup de newsletters anglophones, difficilement africaines, mais au moins anglophones. Là, tu as des chances de trouver. Au pire, ce que tu peux trouver, c'est des newsletters francophones, mais françaises, donc qui vont toucher la France et l'environnement français. Et donc, elle me demande de me lancer, vu que j'ai un minimum de connaissances. Et dans les 2 secondes qui ont suivi, le syndrome de l'imposteur s'est imposé à moi et je me suis dit non, je ne peux pas y arriver, c'est impossible, je ne connais pas. Et elle m'a encouragé en me disant, ce que tu dis est important au moins pour moi. Donc au moins, tu auras cette audience d'une personne qui va suffire. Et donc, j'ai écrit pour elle et 3 autres personnes. Elle s'appelle Aminata Thior, elle dirige le média Cetalma, qui est un média spécifique dans le domaine des cosmétiques en Afrique francophone. C'est pour les entrepreneurs cosmétiques francophones. Tu vois le niveau de niche. Et la deuxième personne qui s'est abonnée, les deux autres personnes qui sont abonnées, c'était ma sœur, qui était une grosse fan de tout ce que j'écrivais, mais probablement juste parce que c'était ma sœur. Alexandre Nguyen, un ami à moi, qui est aussi blogueur et surtout designer, graphiste, entrepreneur. Et Will Foncam, qui est un blogueur assez respecté. Donc, avoir l'opinion de ces personnes-là, pour moi, j'avais gagné le monde. Donc, j'écrivais pour eux. Et ça a gonflé à partir de leurs recommandations. Mon premier channel et mon seul channel pendant longtemps, c'était eux qui disent vraiment, c'est trop génial, vous devriez vous abonner. Et jusqu'à mon centième lecteur, il n'y avait qu'eux qui disaient, OK, c'est trop génial, abonnez-vous. Ou des personnes qu'ils avaient abonnées, qui disaient vraiment c'est intéressant, abonnez-vous, ou c'est cool, ou bien il est drôle, ou ce qu'il dit est faux, mais j'aime bien lire. Et donc jusqu'à mes centièmes, en tout cas, c'était la seule technique utilisée pour recruter de nouveaux abonnés.
Donc je rappelle aux auditeurs que Aminata Thior, je la connais aussi, parce que Aminata, dans une autre vie, a été blogueuse sur le réseau Mondoblog, dont je fais la curation. Et Willy Foncam est l'actuel vice-président de l'Association des blogueurs du Cameroun. Alain Didier, est-ce que tu as réussi à diversifier ton audimat ou bien ton auditoire? Oui. Est-ce que tu as réussi à le diversifier? Parce que là, tu nous as parlé des personnes très précises, très calées dans le domaine de la production du contenu web. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à toucher d'autres personnes, c'est-à-dire dans le listing de tes abonnés, qui sortent un peu de ce cadre-là?
Oui, certainement. À la base, vu que mes lecteurs Mon audience était constituée de personnes qui savaient déjà de quoi je parlais. Il y avait beaucoup de background que je n'avais d'informations en background que je n'avais pas besoin de donner, vu que la plupart du temps, ils allaient savoir ce que c'était. Ils allaient savoir ce que c'est qu'un article, ils allaient savoir ce que c'est qu'un essai, ils allaient savoir ce que c'est que... Ils allaient avoir la conversation de base nécessaire, ils la connaissaient. Mais ensuite, avec le temps, j'ai commencé à toucher des audiences que je ne connaissais pas moi-même. Donc, je me suis retrouvé à écrire pour des personnes que je ne connaissais pas. Donc, j'allais savoir que cette personne-ci me lit pour telle ou telle raison, mais je ne connais pas le profil, je ne sais pas d'où elle vient. Donc, du coup, j'ai changé mon discours pour être plus accessible au cas où la personne n'aurait pas la connaissance de base. Surtout que c'était un feedback qu'on m'envoyait souvent, qu'il fallait que j'apprenne à définir les termes. Donc, j'ai essayé d'être d'un peu plus ouvert et d'écrire de façon plus accessible, donc d'écrire pour m'assurer que la personne qui comprenne, la seule barrière, ce soit son intérêt et pas sa culture préalable. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai recruté de plus en plus d'étudiants. Donc j'ai beaucoup d'étudiants en marketing, beaucoup d'étudiants en économie aussi, qui ont commencé à s'abonner. Et comme ça m'arrivait de participer à des talks ou ce genre de choses, les audiences de cette talk-là, qui étaient en majorité des étudiants, ont commencé à me lire aussi. Donc du coup, oui, dans mon audience, j'ai principalement trois domaines. J'ai des entrepreneurs qui donc, ne s'y connaissent pas dans le domaine des médias, dans le domaine du marketing et dans le domaine de la tech, mais c'est important pour eux parce que c'est leur channel de communication. Donc du coup, ils ont besoin d'avoir le strict minimum pour continuer d'avancer dans leur business. Ça, c'est ma plus grosse audience, on va dire. En deuxième, j'ai les spécialistes du marketing digital, des social media et de l'advertising sur Internet, qui sont pointus, qui savent de quoi ils parlent et qui donc sont intéressés par des conversations profondes sur le domaine et sur la profession. Et ma troisième audience, ce sont les étudiants qui sont intéressés par le domaine parce qu'ils veulent apprendre et qu'ils veulent bien faire leur travail. Et comme je suis beaucoup les sources, ça leur permet de cliquer, de repartir vers les sources et peut-être apprendre à faire un exposé ou ce genre de choses. Donc mes trois audiences, ça va être les entrepreneurs, les marketeurs et les étudiants.
Avec l'évolution de ton audience, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu es obligé d'adapter ton discours. Comment est-ce que ça s'est fait?
Ça s'est fait grâce au feedback. L'intérêt principal de la newsletter, c'est le feedback. Et je crois que je le dis souvent, j'aimerais que quelqu'un un jour le dise en me citant. Le feedback, c'est la drogue de l'auteur. De savoir que quelqu'un t'a lu et il a répondu « je n'aime pas » ou « j'aime parce que » ou « pourquoi est-ce que tu as dit ça ainsi ?» Ça permet de t'améliorer parce que tu sais que la personne a lu et a trouvé quelque chose d'important dans ton texte ou dans ton œuvre. Et donc du coup, tu peux revenir vers lui en disant « ok, j'ai changé par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que ça te convient mieux ?» Et la plupart du temps, une personne qui te fait un feedback, c'est la personne qui parle. Mais elle ne parle pas que pour elle. Souvent, le feedback que tu reçois d'une personne est représentatif de 100 ou 150 personnes qui t'ont lu et qui n'ont juste pas eu le temps parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire pour te faire ce feedback-là. Donc, une fois, quelqu'un m'a fait le commentaire qu'il avait ouvert, mais n'avait pas fini parce que c'était trop compliqué. Donc, du coup, vu qu'il était toujours dans les abonnés, J'ai cherché le type de titre qui aurait pu lui plaire et j'ai réécrit avec l'intention spécifique de lui plaire à lui. J'adressais ma lettre à, je sais pas, peut-être 50, 60 abonnés, mais ma cible, c'était cette personne-là qui n'avait pas apprécié. Et j'ai vu qu'il y avait eu plus d'ouverture. Mais plus le temps a passé, plus les ouvertures ont augmenté. Et cette personne spécifique là, j'ai su que cette personne avait ouvert et qu'elle avait recommencé à lire. Donc c'était quelqu'un que j'avais gagné, et dans nos conversations j'ai vu la différence entre ça m'intéressait pas et ah tiens, j'ai bien aimé ce que tu as dit dans ta lettre d'il y a 3 semaines, 3 mois, et ainsi de suite.
Nous sommes de retour avec Adé. J'ai une question qui me vient comme ça, brûle pour point. Tu as combien d'abonnés aujourd'hui sur ta newsletter, Adé?
Ok, je dois être à 347, 347, 350 abonnés à l'heure actuelle.
Et tu tournes autour de quel pourcentage en termes de taux d'ouverture?
Mon taux d'ouverture, je fais 30%, c'est ma moyenne. Et oui, 30%, c'est ma moyenne en termes de taux d'ouverture. Au plus bas, je fais du 20%. Au plus haut, mais ça arrivait une seule fois. Mais je vais dire au plus haut quand même, c'était 49%. Mais il faut toute proportion garder. J'ai 350 abonnés, donc ça va être 50% de 350 personnes. Ce serait certainement pas la même chose si j'avais 3000 abonnés ou 10 000 abonnés.
Et j'ai vu que pour certaines éditions de ta newsletter, tu avais des sponsors. Comment est-ce que tu arrives à avoir des sponsors sur une newsletter que tu produis au Cameroun?
Ah, ok. Donc ça, c'est une belle histoire, une fois de plus. L'histoire commence avec une personne qui sait quelle est la qualité des abonnés que j'ai. L'idée est venue d'une première personne qui spontanément a voulu s'adresser à ma base de données d'abonnés parce qu'il connaissait quels étaient mes lecteurs. Il avait été coopté par quelqu'un et cette personne avait été cooptée par quelqu'un d'autre. Il avait appris sur ma newsletter par un ami à lui et il connaissait à peu près quelles étaient les personnes qui lisaient et voulait toucher ces personnes-là spécifiquement. Donc il m'a proposé un encart publicitaire et on en a discuté. J'étais tellement honoré, pour moi c'était extrêmement flatteur, mais c'était aussi un coup de chance. C'est que c'est un entrepreneur ambitieux qui sait quel était l'impact, pas en termes d'audience. C'est pas en payant pour ma newsletter qu'il allait avoir 50 000 personnes qui allaient. C'est pas la awareness qu'il cherchait, c'était le positionnement. Il voulait que l'entreprise dont il faisait la publicité soit adossée à l'image de marque de ma newsletter. Le fait que je sache qu'il y a des personnes qui me lisent et qui veulent adosser leur image à moi, ça m'a obligé à changer beaucoup de choses. Du coup, j'ai cherché une identité graphique, j'ai changé le logo, j'ai pris un compte Twitter, j'ai acheté... Non, j'avais déjà le nom de mon depuis le début, mais j'ai acheté un thème premium, ce genre de choses, pour être au même niveau que ce qu'il m'avait offert. Et ensuite, les autres sponsors sont venus plus ou moins spontanément parce qu'il y avait eu ce level-up-là. Et parfois, c'est pas toujours des personnes qui payent en argent, mais c'est toujours des personnes qui payent d'une manière ou d'une autre. Donc parfois, lorsque j'ai besoin d'un service que je ne peux pas payer la personne, je lui propose cette offre-là que la personne va accepter, vu que je connais la valeur financière d'un encart publicitaire dans ma newsletter, qui va de 50 000 francs CFA à 200 000. Il faut savoir que, entre guillemets, dans la vraie vie, ma profession, c'est vendeur et marketeur. Donc j'ai l'habitude de rencontrer des personnes à qui je vais vendre des choses. C'est comme ça que je fais de manière générale pour obtenir des sponsors. Même si on va tous s'entendre. Si tu as envie si toi, tu es un jeune homme qui a envie de doter ta femme, c'est pas avec la newsletter que tu vas y arriver. Et toi, si tu es une jeune femme qui a envie de doter ton homme, c'est pas avec une newsletter que tu vas y arriver.
Quels sont tes modèles en termes de newsletter? De qui tu t'inspires?
Ouh, la liste va être super longue. Ça va être super long.
Ouais. Est-ce que tu peux, disons, tu peux me donner deux noms de personnes qui t'inspirent en termes de newsletter?
Il faut négocier deux, c'est petit.
Non, mais bon, disons, trois.
Ouais, okay.
Trois personnes.
Trois, c'est bon. Ok, les personnes qui étaient mes grosses sources d'inspiration à l'origine, dès que j'ai commencé, c'était C.S. Lewis et Malcolm Gladwell, qui n'avaient pas de newsletter à l'époque. Il y avait un podcast qui s'appelle Revisionist History. Malcolm Gladwell, c'est un Canadien, auteur, journaliste, dont les livres sont... il est un modèle pour moi, vraiment. J'aimerais qu'on m'appelle le Malcolm Gladwell africain, tu vois. Ça va être... c'est là que je saurais que j'ai percé. Et C.S. Lewis, c'est un auteur décédé, un apologète anglais, britannique, qui écrivait une revue hebdomadaire sur la BBC, si je ne me trompe pas. Il faisait des démonstrations sur la parole de Dieu ou sur l'évangile. Et je me suis inspiré de ces deux-là pour, à la base, peaufiner mon style. Maintenant, mes sources d'inspiration au Cameroun en particulier. Au début, quand j'ai commencé avec le blogging, c'était trois personnes. Messi Down, l'auteur Muriel Wunja, de son vrai nom. Xtincel, qui est un ami et une sorte de mentor dans le domaine digital, et Florian Gimbis un peu, parce que j'aimais bien son ton acerbe, au début du moins. Après, je me suis rendu compte qu'il faisait ça beaucoup mieux que moi, donc j'ai un peu mis de l'eau dans mon vinaigre.
Maintenant, dis-moi, est-ce que tu recommanderais à un jeune Camerounais de se lancer dans la newsletter? Et si oui, pour quelle raison?
Absolument, sans la moindre hésitation. Qui est le maximum de personnes qui se lancent? Les chiffres de 2017, si je ne me trompe pas, disaient que la part africaine de la création de contenu dans le monde était de moins de 2%, si je ne me trompe pas. Quand j'ai vu le chiffre, ça m'avait choqué parce que je m'étais demandé qu'est-ce qu'on fait de mal pour qu'on n'ait que 2% de part de création de contenu dans le monde. Ça veut dire qu'on n'écrit pas du tout. Et j'ai eu très vite envie d'inverser ça et d'encourager le maximum de personnes à écrire. Maintenant, pourquoi forcément une newsletter? Ça devrait t'encourager à ouvrir un blog peut-être, mais pourquoi spécifiquement une newsletter? Parce que la newsletter a un avantage dans ta progression. C'est que si tu veux être un meilleur auteur, la newsletter est l'un des meilleurs moyens. Parce que tu as un contact tellement direct avec ton audience. La relation avec l'audience d'une newsletter est tellement personnelle, c'est tellement profond que tu vas forcément croître parce que tu vas t'améliorer au contact des personnes que tu lis. Et si tu as la grâce infinie d'avoir une audience de qualité qui te donne des feedbacks de qualité, tu vas grandir avec une vitesse que tu n'aurais pas pu obtenir dans d'autres moyens. Maintenant, si l'écriture ne t'intéresse pas, il faut savoir que apprendre à écrire, l'aptitude à écrire améliore l'aptitude à penser. Et ça te permet de penser de manière plus structurée, de penser de manière plus correcte. Et ça va impacter tous les éléments de la carrière, ça c'est sûr. Moi, je peux en témoigner en tout cas. Plus d'une fois, mon expérience en tant qu'auteur de newsletter m'a permis soit de décrocher un job, soit de décrocher une promotion. Donc, même si ça ne me rapporte pas en termes de revenus directs, quelque chose de substantiel, encore que c'est une conversation à avoir. En termes de revenus indirects, les augmentations de salaire que j'ai eues et les opportunités professionnelles ou non professionnelles que j'ai eues grâce à ma newsletter sont juste incomparables. Et donc, je recommande ça à 100% pour toute personne qui sent ne serait-ce qu'un peu le désir de se lancer.
Ceci dit, est-ce que toi, tu penses que notre environnement est prêt? Est prêt à accueillir ce type de contenu spécifique qu'est la newsletter, qui n'est pas comme un blog, comme tu l'as dit tout à l'heure, auquel on a accès de manière libre et ouverte en tapant une URL. Est-ce que tu penses que chez nous, ici, les gens sont vraiment peuvent se convertir au fait de s'abonner de manière consciente à un contenu qui pourrait leur être livré toutes les semaines, tous les mois ou tous les jours?
Une fois de plus, sans hésitation, oui, pour deux raisons. La première, c'est que on n'a jamais essayé, on n'a jamais été intéressé parce qu'on s'est dit, la plupart des personnes se sont dit la même chose, que ça ne va pas toucher, que ça ne va pas avoir d'effet, que ça ne va pas avoir d'impact. Et donc, il y a tout un marché qui est complètement vide dans le domaine des newsletters parce que les 5% de la population qui seraient intéressés par les newsletters n'ont pas ce contenu en newsletter. Donc, c'est complètement vide et je peux attester qu'en ce moment, l'offre est très inférieure à la demande. Donc, quelqu'un qui se lance dans la newsletter et dans le podcast d'ailleurs trouvera une petite audience de niche, mais qui pourra l'aider à améliorer beaucoup d'autres choses et ça aura un impact plus large que ce que l'on peut penser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut savoir que les lecteurs de newsletter comme les auditeurs de podcast sont ce qu'on appelle des power users. Ça veut dire que ils n'ont pas besoin d'être nombreux, mais tu pourras en avoir 5. Qui vont t'influencer. Je prends mon cas. Je n'avais pas énormément de lecteurs. Mais dans mes lecteurs, j'avais quelqu'un comme Will Fonkam et quelqu'un comme Aminata Thior. Ces deux personnes-là, ce qu'elles m'ont apporté en termes d'impact et d'influence réelle, c'est au-delà de ce que je n'aurais pu apporter avec tous les lecteurs individuels que j'avais au moment où j'écrivais mon blog ou mes blogs, vu que j'en ai plusieurs. Donc, un lecteur de newsletter convaincu, c'est énormément d'influence que ça te permet d'avoir d'abord sur toi-même, parce que ça te permet de comprendre beaucoup de choses que tu n'aurais pas forcément comprises avant. Donc, oui, je pense vraiment que le marché est prêt. Maintenant, il faut toute proportion garder. Je ne recommande pas ça comme channel principal sans avoir une connaissance minimale des autres canaux de communication dans le domaine digital classique. Ça veut dire que si tu ne sais pas utiliser Twitter, utilise Twitter d'abord parce que Twitter a une audience plus grande. En réalité, si tu veux commencer, utilise Facebook qui a l'audience la plus grande. Et Facebook a actuellement un outil de newsletter. Donc, les opportunités sont infinies. Petit 2, le contenu qui a été créé dans une newsletter peut être réutilisé dans le blog. Personnellement, je ne le fais pas beaucoup, mais il y en a plein qui le font. Si tu utilises la plateforme Substack, par exemple, l'article que tu as envoyé en tant que newsletter a un lien URL qui peut être réutilisé comme blog. Et ce même lien peut être promu ensuite sur Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok. Enfin, le contenu d'une newsletter, lorsqu'il a été écrit de manière suffisamment correcte, peut te servir de script pour une chaîne YouTube, au cas où tu voudrais lancer une chaîne YouTube. Je veux dire, les articles que j'ai écrits il y a 3 ans, je peux les ressortir, les repeaufiner, lancer mon TikTok et... bon, je ne sais pas si ça peut être pertinent ou pas, mais il y a tellement d'autres choses que je peux faire. Et ça, c'est un des avantages non su des newsletters, c'est que la durée de vie du contenu sur newsletter est vraiment grande parce que c'est pas un contenu snack, c'est pas un contenu que tu vas grignoter et puis passer. C'est que ce sont des articles qui ont demandé tellement d'efforts à l'écriture et qui ont demandé tellement d'efforts à la lecture même que souvent les personnes vont s'en souvenir et ce sont des expériences qu'on ne trouve pas facilement dans d'autres domaines de création de contenu.
Je rappelle aux auditeurs que je suis moi-même abonné à la newsletter d'AD et que je recommande chaudement de le faire aussi parce qu'il a des articles qui sont d'une précision et d'une recherche presque infinie. Donc les personnes qui vont s'y abonner ne perdront pas au change, pas du tout au change. Surtout si vous êtes intéressé par les questions liées aux médias, au marketing et à la création de contenu sur Internet. Donc Alain Didier, on est arrivé au bout de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier mot?
Oui, j'aurais voulu te poser la question directement aussi de ce qui t'a inspiré pour faire du podcast parce que c'est... Je suis un grand fan du podcast de René, donc j'aurais voulu te poser la même question que toutes les questions que tu m'as posées là, mais je vais faire ça sur Twitter. Enfin.
Ok, bah, merci beaucoup Alain Didier pour ta disponibilité et pour toutes ces réponses très très éclairées et aussi très détaillées.
Ok, c'était un plaisir pour moi aussi et merci beaucoup à tous les abonnés qui ont donné de leur temps pour nous écouter.
Alain Didier Wanjie est présent sur tous les réseaux sociaux. Ses articles sont disponibles sur son site wanjie.com et sur Scribes, qui est un collectif d'auteurs africains qui travaille sur la plateforme de blogging Medium. Pour vous abonner à sa newsletter, il faut aller sur labaguette.tech. N.com, c'est terminé pour cette saison. J'espère que vous avez aimé ce rendez-vous mensuel et que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir les acteurs camerounais du numérique, des médias et de l'innovation. En tout cas, cela a été à chaque fois un plaisir de vous proposer un nouvel épisode avec de nouvelles thématiques et des points de vue édifiants de professionnels reconnus dans leur métier. Je vous donne rendez-vous en mars 2022 pour le lancement de la saison 2 qui apportera de nombreuses nouveautés. Je termine en vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année et en vous adressant tous mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui arrive.
J'ai toujours voulu être chroniqueur radio. Je rêvais de pouvoir dire une phrase quand j'allais finir mon émission radio. Est-ce que je peux utiliser la tienne pour dire ça?
Ben, vas-y.
C'était la chronique d'AD. Bonsoir.